Salut tout le monde, je m'appelle Pierre Blais, bienvenue à cet autre épisode de Souvenirs du Stade, 25 ans d'histoire des capitales de Québec aujourd'hui. J'ai le bonheur de recevoir deux personnes qui ont été témoins d'événements très importants et qui ont été des acteurs importants également des succès de l'histoire des capitales de Québec. Pour parler de l'unicité de cette équipe-là, de cette franchise-là, à quel point les capitales c'est unique, je reçois aujourd'hui Eddie Lantigua, qui a été l'un des joueurs les plus populaires de l'histoire, un des meilleurs frappeurs de l'histoire des capitales de Québec. Et je reçois également François Paquette, qui a été descripteur pendant 17 saisons à la radio, encore une fois pour les capitales. Si on avait voulu choisir des invités pour nous parler de à quel point cette équipe-là elle est unique, les capitales de Québec, ben je pense qu'on aurait certainement choisi François et Eddie. Alors, bon visionnement à tous. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenirs du stade. Épisode 8, l'unicité. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast 25e anniversaire des Capitales de Québec. Je reçois aujourd'hui Eddie Lantigua, qui a été une vedette incroyable ici à Québec. Salut Eddie.
Salut, ça va bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici.
Ça allait de soi, Eddie. C'était sûr qu'on devait te recevoir pour le podcast 25e anniversaire. C'est les Capitales de Québec. Puis Monsieur Capital de Québec, encore aujourd'hui, pour bien des gens, c'est toi. Regarde, derrière, il y a l'image. Oui, non, là,
tu faisais de belles peintures dans le temps. Hein.
Et François Paquette, qui a été descripteur de l'équipe pendant 17 saisons. C'est énorme, ça, François. C'est presque la majorité de descripteurs.
J'ai raté les quatre premières années des capitales et les quatre dernières là, avec le transfert dans la Ligue Frontier, mais j'étais là dans les belles années, j'ai eu le privilège de décrire l'action des capitales.
Moi, j'ai commencé à être descripteur des capitales la première fois, est-ce que tu t'en souviens, j'étais allé te remplacer à Sussex en 2009, oui, oui. J'avais fait les matchs au téléphone.
Au téléphone, oui.
Incroyable. Mais j'ai commencé à suivre les capitales de façon un peu plus assidue en 2006, j'avais fait mon stage à CHRC avec toi, mm-hmm. Et dès tu jouais avec les capitales, tu étais déjà la grande vedette et tout ça. Puis je dis que tu es Monsieur Capital, puis j'en démords pas. Lorsqu'on parle des capitales de Québec aujourd'hui, on dit « Nommez-moi trois noms liés au capital. » Mais moi, je pense qu'il va y avoir Michel Laplante qui va sortir. Je pense qu'il y a Patrick Scalabrini qui va sortir. Puis il y a Eddie Lantigua qui va sortir. Puis ça n'enlève rien à personne d'autre. Mais ce que tu as fait avec cette équipe-là, c'est pas banal. Tu te fais encore probablement parler de baseball à peu près à tous les jours aujourd'hui. Je me trompe pas.
Oui, oui. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça la richesse d'un jeu baseball quand tout te donne... physiquement, comme aussi mentalement, des côtés spectateurs, tu parles avec tout le monde, tu jases avec les enfants, si tu fais des activités pour l'équipe, tu donnes un peu plus de toi que les autres. Et en plus, tu te donnes aussi pour devenir un très bon joueur et continuer à performer. Ça fait en sorte que le lien entre les spectateurs est plus fort. C'est plus difficile quand le joueur n'est pas très bon, il n'est pas accessible.
Ouais.
Ça aide beaucoup à que le joueur reste attaché et que les gens restent attachés aussi.
Tu n'as jamais hésité à t'impliquer dans la communauté ici à Québec. Tu l'as encore aujourd'hui, tu as ton académie de baseball et tout ça, mais même dès que tu es arrivé, dès que les succès ont commencé un peu, ça n'a jamais été un frein pour toi. En fait, t'es bon du monde, toi. Tu aimes ça, côtoyer les gens.
Oui, j'aime les gens, j'aime partager des choses, partager des souvenirs. Créer de nouvelles choses, j'aime ça. Et en plus, quand c'est pas le baseball, c'est encore plus facile.
Frank, qu'est-ce qui développe un... Ah ben vas-y, écoute, t'avais l'air parti de dire une bonne phrase, j'aime. Vas-y, vas-y.
Tu sais, on parle souvent justement d'exemples de joueurs qui sont arrivés à Québec. Tu sais, qu'on parlait des Provenchers, des Tomlinson, des Purcell. Ben, ouais. Tu sais, Eddie rentre dans cette catégorie-là.
Des gars qui arrivent ici, même,
oui, carrément, dans cette parce catégorie. Que t'arrives ici... T'apprends la langue, tu fais en sorte que tu tombes en amour avec la ville puis tu décides de faire ta vie ici. Eddie rentre exactement dans cette catégorie-là. Puis comme il mentionnait, je pense que le fait aussi d'avoir des très bons résultats sur le terrain, ouais. Ça aide parce que moi, je me rappelle des matchs quand il y avait beaucoup de monde, des chandails numéro 31, il y en avait un puis un autre. Là, c'était comme c'était la figure des capitales. Je pense qu'Eddie et Capi ont été longtemps les deux figures les plus populaires des capitales. Puis ça fait partie du côté fierté de gars qui se sont, non seulement qui ont connu du succès, mais qui se sont établis ici, qui ont appris la langue, puis qui aujourd'hui vivent à temps plein à Québec.
Est-ce que tu as choisi Québec? Est-ce que Québec t'a choisi? Comment ça s'est passé?
Québec m'a choisi, ouais. Je pense, oui. Dans le temps, j'avais une opération de Tommy John, et après ça, ça n'a pas bien été, j'ai eu une deuxième opération. Et là, c'est là que l'équipe me dit que c'est possible que je serais jamais capable de me récupérer à 100%. Ils me laissent aller. Je retournais dans la ligne dépendante pour une année. Ça a bien été. Je n'ai pas frappé beaucoup de circuits. Mais j'avais pas l'énergie encore aussi. La magie qui n'était pas là. Et je passais à ça de dire, j'arrête de jouer. Et là, c'est que à ce moment-là, j'ai eu un appel de capital. Et sans poser de questions, quand il me dit, Québec, une nouvelle ville, c'est une nouvelle équipe. C'était Gerouard dans le temps. Je dis, OK, je suis prêt. Je n'ai même pas parlé de contrôle, je ne parle rien. Envoie-moi le contrôle, il va. C'est que ça a commencé comme ça, je pense que la ville m'a choisi. Une fois que j'ai commencé à jouer ici, ben, c'était une autre histoire. Écoute, je n'ai jamais senti cette envie-là de performer tout le temps, de me donner, d'être encore meilleur qu'ailleurs. Ailleurs, c'était plutôt, c'est ton carrière, il faut que tu fasses tout pour arriver, pour arriver dans la MLB.
Ouais.
Là, il faut que tu fasses tout pour rester avec le capital.
C'est fou quand même. Ouais. Donc, ton arrivée à Québec t'a poussé à être meilleur. C'est intéressant, ouais, ça. Ouais. François, qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans tes 17 années de... Ben, plus que ça, là, je veux dire, tu es encore à Québec, là, tu continues de le constater, mais qu'est-ce qu'un joueur vient chercher à Québec? Qu'est-ce que ça lui apporte de venir jouer à Québec? Parce que, tu sais... Moi, si j'habite, je sais pas, moi, en Australie, par exemple, je regarde, on m'appelle, puis on dit, ben, il y a Québec, puis il y a New York, puis hein, New York, c'est cool comme ville, mais aller là, tu sais. Non, il y a des joueurs qui choisissent Québec. Qu'est-ce que ça leur amène?
Oui, bien, c'est sûr qu'en partant, il y a une carte de vente au niveau de la crédibilité de l'équipe. Parce que assistance, championnat, tout ça, ça aide pour attirer des joueurs. Mais moi, je dis souvent, c'est comme je te disais, Pierre, ça te tente-tu d'aller lancer un an à Taïwan? Veux-tu aller lancer un an en Australie? Tu vas le faire pour le baseball, mais il y a une expérience culturelle qui vient avec ça, parce que la langue, c'est toujours le point numéro un. Il y a certains joueurs à qui ça fait peur, il y en a d'autres, c'est un challenge de dire, je vais aller jouer dans une ville où je connais pas la langue. Il y a des joueurs qui adorent ça, mais c'est vraiment pour, je pense, pour plusieurs joueurs, c'est une expérience culturelle de dire, je viens tester. Pourquoi un gars que j'ai connu, je sais pas, dans le 2A, dans telle organisation, me dit, va jouer à Québec?
Ouais.
Et je veux savoir pourquoi. Puis quand les joueurs arrivent ici, ils se rendent compte que les capitales ont une grande importance dans la communauté. Tu sais, on fait souvent référence à Rockland, New Jersey, tu sais, c'est quand même des bonnes organisations, mais tu vis dans l'ombrage des Yankees, des Mets, des grosses équipes. Ici, tu sais, l'équipe de baseball, c'est les capitales. Puis même, je te dirais, tu sais, je voyage beaucoup à Montréal, puis ça parle de plus en plus des capitales, parce que les gens n'ont plus les expos, n'ont plus de baseball professionnel. Fait que je pense pour bien des joueurs, c'est une expérience qui est phénoménale de dire « je veux aller vivre ça ». Je vais voir si je vais aimer ça. Puis honnêtement, je connais pas le pourcentage, mais je pense que 90% des joueurs qui passent à Québec, même s'ils reviennent pas nécessairement l'année d'après, vont apprécier leur expérience.
Notamment parce que je crois que les gens de Québec ont pas de difficulté à adopter des gens qui, peu importe d'où ils viennent, hein, s'ils veulent adopter la personne, ils vont l'adopter.
Oui, c'est ça, c'est mon point principal. C'est la façon que les gens, ils sont ici avec toi. L'attachement et ils sont capables de créer une énergie positive côté approchement. Tu te sens bien parler avec quelqu'un, tu te sens comme tu es connu, pas seulement comme un joueur personnellement. Et ça donne un impact incroyable au joueur parce qu'il a le goût de continuer. Il connaît quelqu'un, il fait des amis, il s'approche, il connaît les gens. C'est plus facile à baquer dans ce terrain de baseball quand tu joues pour des gens que tu connais, que des gens qui ont un attachement. Tu te donnes encore plus.
Tu es arrivé à Québec à peu près à quel moment dans l'année lorsque tu es arrivé?
C'est en mai. Mais oui, il se faisait fret dans le temps. Là, on avait des toques quand j'étais arrivé la première fois.
Oui.
En 99. C'est la première fois que j'étais à Québec. C'était quelque chose. J'étais impressionné. Je dis, oh, wow, c'est une autre chose.
As-tu la piqûre dès que tu es arrivé? Est-ce que tu t'es dit, oh merde, dans quoi je me suis embarqué ou c'est wow?
Oui, au début, oui, dans quoi je me suis embarqué.
Ah oui, OK.
Mais jusqu'à temps qu'ils ouvrent les portes de stade.
Ah oui?
Quand ils sont ouverts les portes de stade. Les arbres en arrière, là, c'est le terrain, de la manière qui se fait, les estrades très proches. Il y avait quelque chose de spécial dans le stade. Et là, oui, wow, OK, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte que les gens aient dit « play baseball ». Et là, c'est après, à partir de ça, tout a changé.
C'est une histoire qu'on a entendue quand même quelques fois au fil des années, hein, ça?
Oui, puis il parle de météo, Eddie, puis c'est vrai que des fois, c'est important de rappeler aux joueurs que la température qu'on a au mois de mai, ce ne sera pas comme ça au mois de juillet non plus, parce que c'est vrai qu'au mois de mai, des fois, au camp...
C'est pas juste des préjugés, là, il fait frais par bout aussi pour vrai.
Avec la tuque, avec notre manteau, il y a eu des matchs de série, on était avec notre tuque, nos manteaux d'hiver, mais ça faisait partie du charme, mais c'est vrai que pour certains joueurs, c'est bien de les rassurer, parce que, comme Eddie mentionne, quand tu arrives ici, puis là, tu connais pas le marché, tu connais pas la ville, tu trouves qu'il fait froid, ça semble, tu sais, ça a pas l'air d'une ambiance de baseball. Et surtout qu'au mois de mai, tu sais, le hockey est pas fini encore, que ce soit pour les remparts, que ce soit au niveau de la Ligue nationale, les gens parlent encore beaucoup de hockey, mais à un moment donné, quand le beau temps s'installe, quand l'école se termine, puis là, le baseball prend sa place, je pense qu'il y a bien des gens qui se rendent compte, une chance que j'ai pas décidé de, tu sais, d'accrocher mon gant ou d'aller jouer ailleurs. Il faut simplement connaître un peu notre température et notre culture, mais un coup qu'on est bien imprégné, je pense que les joueurs apprécient.
Et là, un point sur la question que tu l'as posée à François, pourquoi nous, on aime ça jouer ici? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on revient? Mais c'est différent d'ailleurs, parce qu'ici, la couverture média, c'est numéro un. Et les joueurs sont toujours sur la couverture, t'es toujours sur le journal quand tu performes. Et les spectateurs sont toujours sur toi. Après la game, comment va la game? La magie de la ville, tu comprends? C'est un lien de beaucoup de choses qui fait en sorte qu'ils s'attirent beaucoup de jouer à Québec. Tu te sens comme si toujours dans l'équipe de la MLB. Parce que les gens sont après toi tous les jours. Et si toujours une année, tu vas sentir encore plus à cahier. Si les gens, ils vont t'adorer plus, ils vont donner encore plus de son sport pour que tu continues à t'adorer.
Surtout quand ça va bien?
Oui, quand ça va bien. Quand ça va mal, tu vas le sentir aussi. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une chose que j'ai compris vite. Ici, quand ça va mal, tu vas comprendre. Oh, OK, il faut te reprendre plus vite parce que sinon, ils sont après toi aussi. Là. C'est des spectateurs qui sont chaleureux de les deux côtés. Ça va bien, wow, ça va pas bien. Ah, OK.
Mais
ils vont entendre des choses.
Puis on l'a vu sans série l'an dernier avec Jeremy Profar. Tu sais, en fin de saison, il y a eu un petit problème au bas du corps. Là. Je pense que c'était la cheville, puis il y a un roulant qui n'a pas couru. Puis finalement, il aurait pu être sauf s'il avait couru. Puis il s'est fait huer dans le stade.
Oui.
Sauf qu'en séries éliminatoires, il est venu à remaudir d'eux l'autre côté comme des vrais de vrais, là, des claques à la Lantigua. Là, tu sais. Et les gens, instantanément, lui ont donné là, l'ovation du siècle au Stade Canac.
C'est ça. C'est ça. Il faut que tu performes. Il ne faut pas que tu fasses ça parce que tu vas comprendre que ça va faire des bruits de différentes façons dans les estrades.
Est-ce que ça a fait ça, toi, au fil? Parce que tu as quand même passé plusieurs années à Québec. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles?
Non, j'ai toujours eu de bonnes années avec les Capitales. Mais la première année, j'ai goûté un peu quand je jouais au troisième but. Au début, c'était un peu difficile à cause de la température, mais les spectateurs, ils me faisaient savoir, il faut que toujours mieux que ça.
Okay.
Si, il y avait des petits mots, ouh, let's go! Et après ça, là, je me donnais un peu plus, je travaillais un peu plus fort. Et après ça, je pense que jusqu'à 2009, ça a super bien été.
Le français, c'est quand même un point important. On en a glissé un mot déjà. Est-ce qu'on est capable de rendre ça comme étant un point de vente? Est-ce que ça devient un avantage à un moment où ça reste toujours un petit point sur lequel les joueurs vont faire « il me semble que ce n'est pas un milieu où je vais être capable de m'épanouir ». Qu'est-ce que tu as entendu au fil du temps, François?
Ben, c'est une bonne question. Je ne pense pas que ce soit un avantage ou un désavantage. Moi, je pense plus que c'est une curiosité pour les joueurs qui s'amènent ici pour la première année. Moi, je trouve ça drôle parce que quand on allait sur la route, il y a des endroits comme à Pittsfield, qui est un petit stade où notre studio était dans les estrades, un peu comme au stade municipal, mais vraiment, là, t'es à travers de centaines d'Américains. Là.
Donc là, les gens venaient autour de toi, puis ils t'entendaient.
Fascinant, puis il y a des gens qui aimaient ça, écouter une nouvelle langue, il y a d'autres gens qui détestaient. À New Haven, les Cutters qui jouaient à New Haven pendant quelques années, je me rappelle d'un spectateur qui était venu me voir pour me dire de fermer ma boîte, parce qu'on m'entendait juste moi, tu sais, puis je parlais en français, puis ça agaçait bien des gens. Mais il y a un côté exotique, tu sais, à la langue française. C'est comme ça attire certaines personnes. Puis je pense que ceux qui ont le goût de rester, tu le sens tout de suite. C'est pas dire je vais apprendre le français au complet pendant une année. C'est d'apprendre des mots, d'être capable de discuter un peu avec les gens. Les Québécois sont capables de faire un effort aussi pour parler
un petit peu en anglais. La pelota, tu sais, je veux dire, c'est rendu connu au stade.
Puis, tu sais, je disais, Eddie est un bel exemple. Les Tomlinson, Provencher, Purcell, il y en a une tonne des gars qui sont Matthew Rush, des gars comme ça qui ont appris le français. Puis que, tu sais, souvent, tu es dans le bureau du coach, puis le gars, il parle pas, mais il écoute. Puis à un moment donné, il va être capable de faire un bout d'entrevue en français. Puis ça, les Québécois adorent ça quand quelqu'un va faire l'effort justement de parler en français. Mais pour les joueurs, je pense qu'il y en a plusieurs, c'est une curiosité. Je pense qu'il y a un petit pourcentage de joueurs qui ne voudront pas venir parce que ça leur fait trop peur, la langue. Mais habituellement, quand le joueur vient se tremper les pieds, habituellement, il va comprendre l'importance de la langue française. Puis habituellement, les joueurs s'acclimatent très, très bien.
Pour moi, je dirais que c'est un cadeau. Vraiment un cadeau.
Parlais-tu français ou pas du tout?
Je ne parlais pas français
dans le temps. Pas du tout, du tout?
Et je savais même pas qu'il parlait français au Québec.
Wow!
C'était un cadeau parce que je passais de parler ma langue à parler en anglais et après ça, apprendre une autre langue. Et que, écoute, quand je suis que pour parler avec les spectateurs et pour avoir une meilleure communication avec les gens, il faudrait que j'apprenne, je me donnais vite. J'ai commencé à être curieux et à me donner plus, à écouter des films en français. Des fois, je faisais la vedette de ce film, je parlais comme lui. Je ne savais même pas ce que je disais, mais je parlais comme lui.
Ah, ouais.
Et après ça, j'ai commencé à lire aussi les traductions. Et là, ça a commencé à coller tranquillement. Je parlais avec les anciens. C'est là que j'ai appris le plus quand je parlais à les anciens au stade. Oh, ils parlent français sans mots. C'est vraiment un bon français, sans dire de mots déplacés. Et ça m'a aidé beaucoup. Vraiment, et après ça, je commence à parler à les gens tranquillement et ça a décollé. C'était pas difficile pour moi, je dis, c'était pas...
Mais pas difficile, mais t'as quand même pris ça en main. Si t'avais laissé cette partie-là de côté et que tu n'avais pas été en mesure d'échanger avec les gens et dire... Évidemment, les résultats sur le terrain auraient parlé, mais je pense que tu n'aurais peut-être pas la même aura autour de toi aujourd'hui, mais là, parce que tu étais un membre de la communauté, tu es vraiment devenu un membre de la communauté à Québec.
Oui, mais c'est sûr que ça apprendre le français, ça m'a aidé à m'approcher plus de la gens, à vivre ici, m'établir ici, continuer à faire ce que j'aime faire. Toutes ces petites choses-là, ouais. Si je n'apprends pas la langue, c'est un peu plus difficile. Et bon, c'est là qu'ils viennent ici, les joueurs, et des fois, ils ne comprennent pas que s'ils ne prennent pas d'attention, c'est une opportunité d'apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, de nouvelles choses, que des fois, les gens, ils payent cher pour ça.
Il y a des gens qui pareil, ouais, hein? Ouais. Alors là, eux viennent ici et sont payés pour... Tu sais, c'est quand même une perspective qu'on doit garder.
Ouais.
Les joueurs qu'on attire de l'extérieur sont ici puis viennent vivre, on en a parlé déjà, là, d'une expérience. Je pense que tu le mentionnes très bien. Le mot expérience, c'est crucial.
Oui, puis tout va ensemble, c'est-à-dire, on a parlé de la langue, mais le fait que l'équipe performe quand même bien depuis 25 ans, le stade municipal qui a son charme, tu sais, un vendredi soir à Québec, là, quand il fait 29, là, puis qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel, les gens sont allés sur la terrasse, on a un bon match de balle, c'est phénoménal. Que t'aimes le baseball ou non, je pense que...
En plus, c'est les prix des concessions. Non, faut qu'on a le goût de se prendre un petit hot dog sur le côté, puis une petite bière aussi, là, tu sais.
Ça fait partie du phénomène, tu sais. Puis je veux dire que tu peux arriver au camp d'entraînement puis dire dans quoi je me suis embarqué. Mais comme Eddie a mentionné, quand tu ouvres les portes du stade, quand les gens s'installent, ça sent le baseball et tout ça. Tu sais, il y a peut-être, à un moment donné, certains joueurs qui pensaient... avoir certains préjugés dans le sens où on n'était pas sûr que les Québécois connaissaient nécessairement le baseball. Mais je pense qu'on se rend compte rapidement que les gens aiment et connaissent leur baseball.
Ça, c'est un préjugé qui a évolué dans le temps à ce moment-là?
Sûr et certain. Puis moi, j'en avais parlé avec plusieurs joueurs puis avec des entraîneurs. C'est que les autres souvent pensaient que, tu sais, que tu sois descripteur, journaliste ou spectateur, que tu arrivais là en disant on va mettre les règlements au tableau pour, tu sais, comme on voit dans certaines arénas au hockey, dans la Ligue nationale, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le règlement. Mais je veux dire, des maniaques de baseball, tu en connais, puis j'en connais, puis il y en a une tonne qui sont au stade à tous les jours. Il y a des gens qui marquent les matchs, il y a des gens qui, tu sais, qui connaissent tous les joueurs de la Ligue, qui connaissent les joueurs du baseball majeur. Il y a un certain préjugé, surtout des Américains qui arrivent ici, en se disant c'est une ville de hockey, ils ne connaissent rien au baseball, mais je pense qu'ils se rendent compte assez rapidement que les gens aiment leur équipe, connaissent leur équipe, mais connaissent aussi leur baseball.
Quand tu croises les gens, ils te parlent de baseball aussi. Ils ne parlent pas juste du fait que tu es gentil et que tu es fin. Là.
C'est vraiment ça. Les gens sont passionnés de baseball. On ne pensait pas à ce point-là. Ils sont passionnés de baseball. Ils connaissent le baseball.
Oui.
Et en même temps, ils suivent beaucoup le baseball, les gens de Québec. Et dans le temps, pour venir en arrière, comme François disait, les gens, qu'est-ce qu'ils font, les Américains, que nous, l'équipe de Québec, voyager aux États-Unis, ils pensaient que c'était une équipe française, de Québec, qui parlait seulement français, qu'il n'y avait pas des Américains, qui n'étaient pas mélangés avec des autres joueurs d'ailleurs. Et ça fait ça que je vais dire, c'était naïf un peu, parce que quand tu joues avec une équipe professionnelle, attends-toi qu'il y a des joueurs qui viennent partout.
De partout, ben oui.
Mais non, au début, il y avait ces petites choses-là qui criaient des mots et des affaires. Parce qu'ils pensaient qu'on était tous des Français. Tu comprends?
Quand même drôle, ce soir-là. Mais parlant de langue, pour les hispanophones, j'ai l'impression que l'adaptation est peut-être... C'est drôle parce que hispanophones, on pense sud et encore plus au sud qu'aux États-Unis. Là, on pense... Et pourtant, je pense que pour ces gens-là, la barrière de la langue devient quand même un peu plus facile à surmonter. C'est des langues, le français puis l'espagnol, qui se ressemblent quand même pas mal. Combien de temps ça t'a pris pour maîtriser le français, là?
À toi, moi. J'étais capable Pardon? D'avoir la conversation.
Ah oui?
Oui.
C'est... OK. Fait que là, on a quand même un ingrédient assez important de comment être adopté par une communauté dans laquelle tu es un nouveau membre. Là.
Oui.
Hey, c'est pas banal, ça, trois mois.
Je m'ai donné beaucoup pour l'apprendre, par exemple. Ouais. Je voulais l'apprendre. Je pense que c'est là que ça a changé la perspective d'apprendre vite. Et pas avoir peur de dire des mots qui sont des fois pas corrects.
Même si on se trompe, c'est pas grave.
Non, mais les gens érigés, quand les gens érigés, je savais que le mot n'était pas correct.
OK.
Et à ce moment-là, j'étais capable de bien placer. J'ai posé la question, c'est comment que tu le dis? Et à ce moment-là, il m'a dit, OK, il faut que tu le dises comme ça. Il faut que tu prennes plus de temps entre les deux mots. Allez pas trop vite. Fais attention. Le français, c'est pas comme l'anglais. L'anglais, tu peux lancer n'importe comment et les gens vont le comprendre, mais pas le français. C'est, ça m'a aidé beaucoup à me corriger pour encore parler mieux. C'était pas difficile parce que je voulais l'apprendre. Mais pour les autres qui donnent pas l'attention, qui y veulent pas, mais c'est un peu plus difficile.
C'est ouais. drôle parce que tu regardes justement les exemples que je donnais, tu sais, Eddie est originaire de l'Amérique latine. Tu vas prendre un gars comme Tomlinson qui est né en Jamaïque, qui a grandi au Texas, qui est venu ici, qui a appris le français. Brad Purcell est un Australien qui a appris le français. Tu as vraiment des gens de partout sur la planète qui, de toutes sortes de jeunesse différente, d'expériences de vie différentes qui sont venus ici. Il y en a probablement quelques-uns qui ont moins aimé que d'autres, mais ceux qui sont restés, puis comme Eddie a mentionné, ceux qui ont voulu apprendre aussi. Parce que moi, je le dis souvent, comment les Québécois adore quand quelqu'un fait un effort.
Fait l'effort. Il n'a pas besoin d'être performant, il a besoin de faire l'effort.
Regarde juste un exemple, une entrevue d'un joueur du Canadien qui va juste dire bonjour ou merci beaucoup. C'est ça, les gens apprécient. Puis comme Eddy mentionnait, c'est que quand tu te forces, même si tu fais des erreurs, les gens vont peut-être te corriger ou rire pour dire c'est pas ça le mot. Si tu fais un effort, les gens adorent ça. Puis ceux qui ont voulu s'investir dans le français et la communauté ont eu aucune difficulté à s'installer puis à être à l'aise ici.
Ces gens-là sont sûrement pas difficiles la convaincre une fois rendu à Québec, dans l'environnement et tout ça. Mais reste qu'il a probablement fallu quand même le combattre, ce préjugé-là, pour en amener des joueurs. Puis probablement que le succès... Tu sais, la carte de visite, en fait, c'est un peu ça que je veux dire. Québec a une carte de visite incroyable pour les joueurs, qui soient des joueurs locaux, des joueurs américains, des joueurs qui viennent d'ailleurs aussi. La carte de visite est là, puis c'est pas juste les championnats.
Non.
C'est pas juste de gagner.
Ça aide énormément, mais je pense qu'aujourd'hui, la meilleure carte de visite des capitales, c'est le bouche-à-oreille. C'est parce que, tu sais, dans le monde du baseball, tout le monde connaît quelqu'un. T'sais, je te donne un exemple. Patrick Scalabrini cherche un joueur, il tombe sur un nom, il regarde avec qui il a joué. Il y a deux gars dans son vestiaire qui le connaissent. Puis, tu sais, c'est toujours comme ça.
Je pense que Greg Bird, c'est ce qui est arrivé l'été passé.
Exactement. C'est un bel exemple. Puis, c'est pour ça que le bouche-à-oreille, quelqu'un qui reçoit un appel de Patrick Scalabrini qui dit d'un, je sais pas c'est où Québec, vous parlez français. Là, soudainement, il dit, ah oui, tel gars joue, il donne un coup de fil, envoie un message texte pour savoir, tu sais, c'est quoi la vie à Québec. Je pense que dans 90% des cas, c'est très positif. Puis le bouche à oreille, il dit, écoute, on est bien traité, on a du fun, on a une bonne équipe, on gagne des championnats, on peut avoir du fun un vendredi soir sur la Grande Allée comme tout le monde. On peut, avoir du succès avec notre club de baseball. Les gens aiment leur club, et on a des bonnes foules. C'est tout ça mis ensemble, ça fait une carte de visite fantastique. Même pour ceux qui doutent un peu avant de mettre les pieds à Québec.
Un joueur qui hésite à venir à Québec puis qui contacte Eddie Lantigua, ça te prend combien de temps de le convaincre?
Ça va prendre 2 minutes. En 2 minutes, je le convainc.
Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis?
Je lui ai dit que ça va être l'expérience de ta vie. Une fois que tu joues au Stade de Québec, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose de différent. C'est le baseball taquetel, mais c'est la magie de jouer là. Tu vas jouer à New Jersey après, tu vas jouer ailleurs, tu vas affronter les autres équipes et tu vas avoir le goût de retourner à Québec pour jouer à Québec. Parce que c'est une sensation incroyable. Comme tu dis, le stade, c'est bien fait. Et le fait de pouvoir avoir de l'espace libre en arrière qui était des arbres, si le stade est proche, tu comprends, le terrain il est super beau. Et la chaleur des spectateurs. Tu comprends, ils sont bruyants, ils font des bruits. Tout ça fait en sorte que la magie qui opère tout de suite, et t'as le goût de performer plus, t'as le goût de donner plus. Tu peux pas être le joueur dans son coin qui ne veut pas se donner à 100% quand tu viens à Québec.
Qu'est-ce que ça t'a fait l'été, lorsque ton fils est venu jouer, mais comme visiteur au stade? Il était pas avec les Capitales, il était visiteur. Qu'est-ce que ça t'a...
Ça a fait des frissons. Ça a fait des frissons parce que... Tu jouais là, après ça, tu vois ton enfant dans le même terrain, jouer baseball. C'est stressant En même temps, ça fait des frictions parce que c'est toujours c'est ce qu'un parent il veut. C'est tous les papas qui jouent au baseball dans la MLB, ils veulent que son fils joue aussi dans la MLB ou joue dans son équipe. Quand je l'ai vu jouer, pour moi, c'est spécial.
Lui, il l'a vécu quand même à distance quand il était plus jeune. Là, de jouer au stade, ça devait être incroyable pour lui aussi.
C'est ça. Mais tout le monde a envie de jouer au stade. Quand ça arrive, c'est là que tu comprends pourquoi. Alors, à ce moment-là, je comprends pourquoi, depuis ce temps-là, je voulais jouer ici. Parce que c'est magique. C'est de bons souvenirs. C'est de bons histoires à rencontrer. C'est fait un moment spécial dans ta vie personnelle. De jouer dans un beau terrain avec beaucoup de citoyens, beaucoup de championnats. Tout ce qui se passait au stade, tu comprends? Tu fais partie de ça à ce moment-là, au moment que tu mets l'uniforme et que tu joues au stade.
Puis on n'a pas toujours l'ampleur que tout ça peut prendre. Parce que là, effectivement, je pense que D, t'es vraiment un bon exemple. T'es arrivé à Québec, tu connaissais pas Québec. Ta famille habite ici maintenant.
Ouais.
T'es en affaires ici. T'as appris le français, ça t'a permis de lancer en affaires ici. Tu sais, c'est pas banal non plus. C'est, dans le fond, Québec est devenu ta vie. C'est devenu ta vie, Québec.
Oui, absolument. Il n'y a personne qui me sort d'ici. Les gens, ils me posent la question. Les gens, ils me posent la question. Hey, t'es dominicain, le soleil, tout ça. Oui, j'aime mon
pays. Même nous, là, en passant, nous, on trouve ça bizarre là, que tu restes ici alors que tu aurais la possibilité de passer beaucoup de temps au soleil.
J'adore mon pays. J'adore mon pays. Mais je vécu dans mon pays. Je vécu ici. Et mon pays ne me donne pas le confort, le mode de vie, les opportunités. Si tout ce que j'ai vécu dans les dernières années de baseball, je l'ai vécu ici. Je me sens bien quand je suis ici, tu comprends? Quand j'arrive à la République dominicaine, un mois après, je vais quitter, je vais retourner à Québec. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est pour ça que je dis Québec, c'est chez moi aujourd'hui. Même si je suis dominicain à 100% et québécois
à 100%, ben oui.
J'ai toujours envie d'habiter plus ici que là-bas. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités d'aller faire du baseball là-bas, d'aller coacher, d'aller faire des choses, mais l'envie de rester ici, de faire partie de tout le projet que j'avais en tête, là, d'aider les enfants à améliorer encore, oui, ça m'aidait encore à donner plus de force. Mais aujourd'hui, c'est ça que je fais, je gagne ma vie à faire du baseball, à coacher les enfants. C'est juste, j'ai la bonne heure. Même s'il y a la fatigue physique, le côté mental est fort tout le temps. C'est tout ça.
Puis l'élan est encore là. En plus, moi, je l'ai vu dans les dernières années quand même. Je sais que l'élan est encore là.
Puis j'allais dire, tu sais, parce que quand on parle de qualité de vie, je veux dire, à Québec, je pense qu'on peut se compter chanceux aussi. Ouais, hein? Il n'y a pas beaucoup d'endroits en Amérique où tu peux te promener n'importe où à 2 heures du matin sans te casser la tête. Tu sais, je pense que Québec, c'est pas trop un problème. Là, c'est pas sans rien enlever à Montréal, New York ou à d'autres endroits.
Mais c'est très calme.
C'est calme. Puis si tu veux avoir un peu de plaisir, il y a des places en masse pour en avoir si tu veux. Tu sais, il y a un petit peu de tout. Non, on n'a pas de club de baseball majeur, de Ligue nationale de hockey, mais Québec est bien avec ce qu'on a présentement. Puis moi, je pense que la qualité de vie, ça reste un des facteurs les plus vendeurs pour cette ville-là, parce que ça reste un endroit où le taux de criminalité est tellement bas, tu peux faire à peu près n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quelle heure, sans te casser la tête. Puis ça, je pense qu'il y a bien des gens en Amérique aujourd'hui, on sait qu'en 2024, ça brasse à bien des places.
Il y a des enjeux de sécurité partout.
C'est ça.
Hein?
Fait que je pense que ça aussi, ça peut être une carte de visite très importante.
Il n'y a pas de prix. Ça, c'est parti là. Il n'y a pas de prix. Tu payes n'importe quel prix pour avoir une belle vie, pour être bien, pour être en paix, pour avoir d'inquiétude, envoyer tes enfants à l'école, pour être cranqué. Tu comprends? Tous des petits détails comme ça qui font en sorte que Québec, c'est la place pour vivre.
Tu as une plus belle vie aujourd'hui que tu aurais eue si tu n'étais pas venu à Québec?
Absolument.
Oui?
Absolument. 100%.
C'est pas banal comme témoignage, François. Moi, ce que j'entends de la part d'Eddie, je trouve ça...
Il n'y en a pas d'interrogation. Fais-moi confiance. Parce que je te dis, je jouais beaucoup à les États-Unis. Je rencontrais beaucoup de gens différents. Je visitais beaucoup de villes différentes. Et c'est ça qui fait en sorte que quand tu arrives à l'endroit, c'est facile à la choisir. Tu comprends?
Ouais.
C'est Québec, c'était ça. C'était, pour moi, c'était facile. Et après ça, l'histoire rencontre tout après le baseball, la famille.
Oui, puis je me rappelle, là, il y a quelques voyages qu'on avait fait dans l'association américaine quand il y avait des matchs interligues, puis T.J. Stanton avait joué dans cette ligue-là. Puis je me rappelle qu'il y a quelques endroits où il disait, je veux juste t'avertir, mais quand le match finit, tu montes dans l'autobus, là, tu ne vas pas te promener pour voir ce qui se passe à gauche et à droite. Je me rappelle de la ville de Gary, là, c'est la ville de naissance de Michael Jackson.
Gary South Shore,
ouais, c'est ça. Écoute, ça faisait pitié. Là. Moi, je me rappelle, on est arrivé là en autobus, puis il y avait partout là, des maisons abandonnées, des maisons où les gens ont arraché les fils parce que les fils, là, exemple, de cuivre ont une certaine valeur et tout ça. Wow. Puis là, c'est presque épeurant. Mais tu sais, TJ m'avait averti, il y a tel endroit, on va, je sais pas, à Winnipeg, à Saint-Paul, il n'y a pas de problème. Mais rendu à Gary ou d'autres places, c'est le match fini, tu prends tes affaires, attends-nous dans l'autobus, va pas te promener parce que tu sais pas à quoi t'attendre.
Avais-tu fait en autobus ce voyage-là?
Oui, celle-là, je l'ai fait en voyage. J'ai fait le voyage en autobus, puis j'avais même pris l'avion, puis les capitaines avaient été vraiment corrects avec moi parce que c'était très, très long, puis ils savaient que je détestais l'autobus, fait qu'ils m'avaient même payé un billet d'avion pour le retour. Wow. Mais ça a été des très, très belles expériences. Je veux dire, Winnipeg, les gens aiment le baseball, il y a beaucoup de monde. Saint-Paul, c'était à l'époque, là, c'était la mecque du baseball indépendant. Maintenant, ils sont la filiale des Twins. Mais c'était fascinant d'aller là. Donc, tu sais, c'est des belles expériences pour moi comme journaliste, commentateur, descripteur, mais pour les joueurs aussi, ça avait été très bien. Puis je peux te dire une chose, c'est que les joueurs qui venaient à Québec, que ce soit New Jersey, Rockland, peu importe, eux aussi, c'était toute une expérience. Puis il y a des joueurs qui encerclaient la date ou les dates à Québec en disant « J'ai hâte d'aller jouer là parce que tout le monde m'a parlé de la grande allée, du stade, des spectateurs. »
Ils sont pas en banlieue de la grosse ville. Là, ils s'en viennent dans la grosse ville de la place. Là. C'est comme t'es au cœur de ce qui se passe.
Ah oui, puis c'est, tu sais, pour bien des joueurs, c'était non seulement une date importante dans l'année, si tu faisais, tu venais une ou deux fois, et les joueurs aimaient ça, gardaient peut-être un peu plus de leur per diem pour cette fin de semaine-là. Mais tu sais, pour certains joueurs aussi qui jouaient devant 200 spectateurs, qui arrivent ici un vendredi soir, qui disent c'est fascinant d'avoir du monde comme ça. Là.
Ça, c'est la partie la plus incroyable. Tu savais qu'à chaque fois que tu jouais à Québec, il y avait des gens dans les estrades. Mais à chaque fois que tu partais à l'États-Unis pour jouer dans les équipes, tu ne savais jamais comment aller.
Tu n'as pas de certitude, hein? Tu peux arriver à un match...
100 personnes, comme pour t'avoir 1000, 2000 personnes, mais pas autant jamais que Québec. Les spectateurs ici, ils étaient fiers d'être toujours présents.
Ça fait partie de l'unicité de Québec dans le monde du baseball indépendant.
Oui, puis c'est arrivé certaines fois. Moi, je me rappelle qu'on est allé à des places, je vais te donner Newark, qui est un bel exemple, là, où il n'y avait jamais personne. Puis là, tu arrives à un match un soir, soudainement, il y a 3000 personnes.
Promotion,
feu d'artifice après le match. Feu d'artifice.
Ça, c'est un super bel exemple. Nous, une grande ville, le stade, il est beau, il est grand, il n'y a personne. C'est la magie qui n'est pas là.
La magie n'est pas là, puis peut-être que l'organisation, là, je ne veux pas les envoyer en dessous de l'autobus, mais tu sais, tu parles de feux d'artifice, Frank. Ici, il y en a une fois par semaine. Il y a des promotions à tous les soirs. Fait que, tu sais, encore une fois, probablement que l'organisation des Capitales est une organisation unique grâce à ça aussi.
Oui, parce que c'est sûr qu'aux États-Unis, les soirs de feux d'artifice, ou si, disons, exemple, on amène un joueur du baseball majeur qui va venir signer des autographes.
Ou le fameux match du mercredi à 11h le matin pour l'école primaire.
Ça, mais Newark le faisait souvent, ça. Puis c'était pas nécessairement des promotions, mais il y a eu des matchs où il y avait... Écoute, il y avait 15-20 personnes. Là, on le faisait pas parce qu'il y avait plus de monde. Une fois de temps en temps, c'était pour les camps d'été.
Il y a des fois où ça faisait patate.
Tu t'entends presque résonner dans le stade tellement il n'y a pas grand monde. Puis même qu'à Newark, moi, ce qui me fascinait, c'était le son police, ambulance, que tu entends plus. Parce que derrière, il y avait quand même une route qui était pas
loin. Ton ambiance sonore dans la ville, c'est ça.
C'était carrément ça. Puis Newark, c'est pas la place la plus agréable à aller non plus. Puis juste pour te dire, moi, Newark, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'une année, on est allé, c'est l'année de la finale de la Coupe Stanley entre les Devils du New Jersey et les Kings de Los Angeles.
Okay.
Puis l'aréna des Devils n'était pas très loin du stade. Mais jamais, jamais, jamais que tu aurais su qu'il y avait une finale de la Coupe Stanley à peu près 2 km du stade.
Alors qu'ici...
J'aurais été en bedaine dans les rues, là, parce que c'est pour ça que tu regardes ça puis tu te dis, le sport a son importance. Puis les gens appuient les Remparts, le Rouge et Or, les Capitales. On se donne toute la main aussi pour que tout le monde connaisse du succès. T'sais, je regarde dans les derniers jours, le Rouge et Or basket qui a gagné le championnat canadien, c'est gros. Puis les Capitales les félicitaient sur Twitter, puis les autres organisations vont le faire. Tout le monde marche main dans la main, puis on est content du succès des autres parce qu'on n'est pas là pour se voler des spectateurs.
La communauté.
Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, c'est le bon mot pour une communauté sportive qui est tissée serrée ici à Québec.
Messieurs, merci. Je peux pas vous remercier davantage. Je peux pas aussi bien vous remercier que je voudrais le faire parce que vous êtes deux personnes qui ont été très importantes dans l'histoire de l'équipe. François, je sais que t'aimes pas les compliments, mais je vais quand même t'en faire. 17 ans, la description, c'est pas banal. T'es encore la voix des capitales avec Jacques Doucet, c'est toi. T'sais, on se le fait dire encore l'été. François, comment qu'il va? Puis moi, j'ai la chance, on est chum, là, tu sais. Fait que je suis capable de donner des nouvelles aux gens puis de dire, ben, vous pouvez le suivre à TVA. Mais t'as fait partie de cette équipe-là pendant des années, puis faut que tu le prennes. Je sais que t'aimes pas ça, mais prends-le.
Mais je vais le prendre. C'est très gentil, puis je vais le prendre. Mais tu sais, puis moi, je dis toujours souvent merci au capital de m'avoir embauché. Tu sais, à l'époque, c'était comme on partait un peu de nulle part, là, quand on est allé faire les séries en 2003 à North Shore. On disait où c'est qu'on s'en va avec ça. Puis à partir de là, ça a été une histoire d'amour qui a commencé. Mais sans les capitales, je serais jamais avec le baseball majeur aujourd'hui. Puis de décrire des circuits dédiés, des catchs de Goffrey Tomlinson, ouais, une troisième prise de Michel Simard, pour moi, ça a été une expérience phénoménale. Puis si j'avais recommencé demain matin, je prendrais encore mon auto puis je continuerais, aucun doute là-dessus.
Une autre voiture que celle que tu avais, par exemple. Parce que...
ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand tu quittais François, parlait la radio, et là, aujourd'hui, tu es quelqu'un d'autre, c'est pas pareil.
C'est moi, l'autre quelqu'un, puis que tu vois, c'est pas pareil. Je le sais bien que c'est pas pareil. Puis c'est vrai que c'est un gros défi de faire aussi bien que des prédécesseurs comme ça, lui, comme Jacques Doucet.
Je pense que François, il est attaché beaucoup avec le capital à ce temps-là. C'est comme nous, les joueurs, quand ils jouaient dans son équipe pendant très longtemps, si on se donne à 100%, ils ont fait partie. C'est comme une famille.
Ouais.
Et je pense que François, c'était ça dans le temps. C'est devenu une famille, le capital, et après ça, c'est son rendez-vous à tous les jours. La bonheur était toujours à tous les jours parce que tu avais des plaisirs à le faire. J'imagine que pour toi, c'est la même chose aussi.
C'est pareil, ouais. Je trippe baseball autant que vous deux, là, les gars. Puis, tu sais, dit, j'allais avec quelques compliments à François, mais j'ai pas le choix de te retourner à peu près les mêmes, là. Monsieur Capital, c'est toi. Je pense que les gens étaient heureux d'avoir de tes nouvelles. Puis, anytime, si tu passes au stade, tu viens nous voir à la radio, puis on va se poser quelques questions, puis on va se raconter quelques histoires, puis se rappeler des bons souvenirs aussi. N'hésite jamais. Les gens, encore une fois, nous parlent de toi au stade, dans les couloirs, puis disent « Je me souviens de l'année de l'Antique, quoi, puis tout ça. » C'est fou, c'est complètement fou. Fait que bravo, merci d'avoir été là, puis j'espère que les gens vont apprécier l'écoute de ce podcast-là.
Merci, Pierre.
Merci à toi.